Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon ben j'espère que vous avez profité de ces deux semaines, trois semaines pour travailler les cours. Il n'y aura pas d'interrogation écrite. Et moi j'en ai profité pour préparer mais les suivants. Les quatre que vous allez entendre maintenant et qui sont tous maintenant plus ou moins dédiés à la question du devant-derrière et dessus-dessous et aussi de l'évolution essayer de comprendre à partir de cette question du devant-derrière, dessus-dessous et de comment placer les bords dans un cerveau à la question de comment ça peut nous éclairer sur la naissance et l'évolution des hominidés, évidemment de Homo sapiens qui est notre hominidé préféré. Enfin, pour moi, en tout cas. N'étant pas zoophile, sapiens m'intéresse plus que le singe. Mais le singe m'intéresse dans la mesure où, évidemment, il faut comprendre le rapport entre l'homme et le singe. Donc, je vous ai laissé, là, le temps que vous attendiez, cette phrase, plutôt ce petit texte avec lequel j'avais terminé la dernière leçon, sur, qui est un texte de Darwin, donc, bien entendu, où il nous donne une origine effectivement assez basse, une origine que j'ai essayé de vous rappeler, et je vais encore traiter de l'origine et de l'évolution des vertébrés maintenant. On va en rester aux vertébrés. D'ailleurs, ce n'est pas vrai, je ne vais pas en rester aux vertébrés ce cours-ci, il y aura encore de l'invertébré. Et là, c'est un autre dessin, c'est un dessin qui a été pris dans un almanach en 1882 et qui est un almanach qui dit que man is but a worm, l'homme n'est qu'un ver. Hein, et l'origine, l'idée, c'est qu'en fait, nous descendons du ver. Alors vous voyez ici le ver ici, et puis qui petit à petit se transforme en homme, quoi, et puis qui termine évidemment par la figure de Darwin. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, nous avons beaucoup de choses en commun avec un certain nombre de vers, peut-être même plus avec les vers qu'avec les mouches. Alors, comme vous êtes habitués à ressembler à des mouches maintenant, nous allons encore descendre d'un cran dans l'humiliation faite à Sapiens, qui est quand même pour moi un grand plaisir malgré tout. Donc, devant, derrière et dessus-dessous, c'est très simple. Dès que 1 plus 1 font plus que 2, alors ça veut dire qu'il y a une relation qui s'établit entre les deux cellules. Cette relation, je les ai marquées par ces flèches. Et du coup, il y en a une qui est devant et l'autre qui est derrière, et une qui est dessus et l'autre qui est dessous. Et ça, c'est la première différenciation. Donc il faut savoir, évidemment, quand on veut se différencier, qui est devant, derrière, qui est dessus, dessous. Et c'est une problématique, évidemment, très importante pour tout ce qui est de la construction d'un organisme, puisque les organismes multicellulaires répètent cette opération à multiples reprises. Donc, je vais commencer avec... la question de OTX2, vous allez voir ce que c'est, et j'en ai besoin avant cela de vous rappeler quelque chose que je vous avais donné déjà, c'est-à-dire la définition de ce qu'on appelle les orthologues et les paralogues. Les orthologues, ça c'est un gène ancestral qui a évolué dans deux embranchements séparés et qui a un petit peu muté de chaque côté, mais qui au fond sont homologues, ces deux gènes sont homologues à travers l'évolution, c'est-à-dire qu'ils sont les descendants du même gène ancestral. Donc ça, ce sont deux gènes orthologues. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, deux gènes paralogues sont des gènes où il y a eu une duplication génétique. Et ils ont évolué séparément. Éventuellement, l'un des gènes est passé sous le contrôle d'autres éléments de régulation, mais ces deux gènes sont homologues par paralogie et pas par évolution. C'est-à-dire qu'en fait, ils procèdent d'une duplication. Donc, le gène dont je vais vous parler, c'est OTX2. Et OTX2 est ce que j'appelle le gène de l'avant. OTX2 est un gène qui encode un facteur de transcription, c'est-à-dire un facteur qui régule l'expression d'autres gènes, et qui est pour l'essentiel toujours, qui est très ancien, hein, on le voit déjà chez les hydres, ici, chez les sinentérés. Donc avant la naissance du premier ancêtre d'Urbilateria, hein, donc le premier ancêtre des organismes à symétrie bilatérale. Donc chez ces sédentérés, on voit déjà un hydre OTX, qui est ce gène de l'avant chez l'hydre. Et puis ce gène est conservé chez tous les organismes, jusqu'évidemment chez nous. Il y a eu des duplications. Vous voyez, quand OTX transforme en OTX1, OTX2, OTX3, ça veut dire qu'il y a eu des duplications. Mais fondamentalement, ce sont des descendants de ce premier gène que j'appellerais le gène de l'avant, hein, essentiellement. Donc, vous voyez ici, par exemple, chez les acidies, vous avez l'orthologue d'OTX2 qui est exprimé à l'avant chez l'acidie. Vous savez que l'acidie est pratiquement aujourd'hui un des organismes les plus proches de nous. Voilà, c'est un urochordé. Longtemps, on a pensé qu'Amphioxus était plus proche de nous que les acidies, mais les acidies sont très proches. Si c'est Amphioxus, vous voyez qu'il y a une petite expression de OTX à l'avant aussi chez Amphioxus. Et puis, vous avez la lamproie, voilà ici, avec l'expression de deux gènes OTX aussi chez la lamproie. Voici ici, chez la souris, c'est-à-dire chez nous, l'expression d'OTX, depuis l'avant de la tête jusqu'à la frontière mésencéphalique, métencéphalique, dont je reviens là. Ça, c'est télencéphale, diencéphale, mésencéphale. Et ensuite, après, vous avez le métencéphale. Donc, vous voyez que vous avez cette frontière très avant. Je dis gène de l'avant parce que, comme je vous l'ai souvent rappelé, énormément des tissus que vous pensez des tissus de type peau, muscles et os qui sont à l'avant de l'organisme sont en fait des dérivés du tissu nerveux. Ce sont pour beaucoup des dérivés de ce qu'on appelle la crête neurale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, chez une mouche, je retire OTD, qui est donc l'équivalent orthologue de OTX2 chez la mouche. Quand je retire OTD chez la mouche, c'est un gène gap, c'est-à-dire que je retire tout le segment dans lequel, tous les organes dans lesquels ce gène est exprimé. Et vous voyez ici le protocérébrum, deutocérébrum, totocérébrum, il y a trois ganglions céphaliques chez la mouche, chez la drosophile. Et si je retire ce gène, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je perds une partie du deutocérébrum et tout le protocérébrum, c'est-à-dire en fait tout l'avant du système nerveux de la drosophile. Maintenant, si je fais la même chose chez la souris, je perds également tout l'avant du système nerveux chez la souris. Pareil d'ailleurs chez Sapiens, il y a des cas d'anencéphalie qui sont liés à des délétions ou des mutations très fortes du locus OTX2 chez Sapiens. Donc ça prouve que ces gènes ne sont pas seulement orthologues sur le plan des séquences, mais ils sont aussi orthologues sur le plan des sites d'expression, c'est-à-dire à l'avant, et orthologues sur le plan de la fonction, c'est-à-dire que vous voyez que la perte de fonction entraîne la perte de la partie antérieure du système nerveux. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si je fais un hétérozygote ou une perte, je dis, une perte de TX2 chez la souris? Voilà une souris normale, enfin bon, aussi normale que je peux la dessiner avec la palette graphique. Et voici ici une hétérozygote, un hétérozygote dans un premier fond génétique qui ressemble énormément, alors que donc on a perdu un seul allèle. Voici un hétérozygote dans un deuxième fond génétique qui n'est pas tout à fait normal. Et ça, c'est pour vous indiquer que, bien entendu, quand on regarde, vous rappelez que quand on regarde le phénotype d'un mutant, le phénotype va être vraiment dépendant du fond génétique. Hein. Les gènes, pour ainsi dire, chassent en bande. Un gène jamais actif tout seul, toujours un fond génétique important. Si vous perdez les deux allèles, évidemment, vous perdez la tête chez la souris, comme vous le démontre ce dessin. Comme vous l'illustre ce dessin, il ne vous démontre rien, parce que j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais quelqu'un aurait sûrement protesté, j'en suis convaincu. D'ailleurs, s'il y a une erreur... Alors, la question, c'est si ces gènes sont orthologues, c'est-à-dire homologues à travers l'évolution, est-ce que l'un peut remplacer l'autre? Donc, ce qu'on a fait, c'est que les gens ont retiré OTD chez la mouche, donc la mouche perd la tête, et à la place, ils ont mis OTX humain, et la mouche a récupéré la tête. Donc ça, c'est quand même bon signe. Alors, comme je le dis souvent, on n'a pas fait la manip dans l'autre sens, mais on l'a faite dans l'autre sens chez la souris. Et donc, ce que vous voyez, c'est prendre une souris, vous lui retirez OTX2 et vous le remplacez par OTD, et l'orthologue. Et vous voyez qu'il n'y a pas de tête. Vous pouvez dire, ah ben alors, ça ne marche pas. Mais si vous faites ça en ajoutant les séquences flanquantes de la souris, c'est-à-dire les séquences régulatrices de l'expression du gène de souris, alors vous pouvez récupérer une tête chez votre souris. Ce qui veut dire que le gène de séquence codante chez la mouche à condition qu'elles soient régulées correctement, c'est-à-dire au bon moment, au bon endroit, et pendant le temps qu'il faut et dans les quantités qu'il faut, le gène de la mouche peut très bien complémenter le gène de la souris. Et donc ça montre qu'effectivement, vous avez une orthologie très forte, c'est le même gène d'une certaine façon, entre la souris et la mouche. Ce qui veut dire que l'ancêtre, il y a 600 millions d'années, avait déjà un gène qui est quasiment le nôtre, d'une certaine façon. Donc, ce que je vous ai dit aussi, c'est que OTX2, chez les vertébrés, mais pas seulement chez les vertébrés, a des paralogues, et un de ces paralogues est OTX1. OTX2 se divise, deux OTX2, évolution, il y en a un qui reste normal, qui reste OTX2, puis il y en a un autre qui mute, qui acquiert de nouvelles propriétés, qui s'appelle OTX1, et qui également est soumis à d'autres signorégulations que OTX2, c'est-à-dire qu'il passe sous le contrôle d'autres éléments régulateurs, où il développe lui-même ses propres éléments régulateurs. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que OTX1 se souvient qu'il a été OTX2? Donc, pour savoir si OTX1 se souvient, est-ce qu'il a été OTX2, le plus simple, c'est de retirer OTX2 et de mettre OTX1 à la place et de voir ce qui se passe. Donc, quand on fait ça, il se passe des choses intéressantes. Voilà. Donc, voici ici ce qu'on appelle, c'est tout au début de l'embryogenèse, ça, c'est ce qu'on appelle l'endoderme viscéral antérieur, c'est-à-dire une région qui fait partie des annexes embryonnaires, avec une région qui est inductrice pour le système nerveux. C'est-à-dire que la partie avant de l'endoderme, l'antérieur viscéral endoderme, va induire le système nerveux, du moins les caractéristiques antérieures de ce qu'on appelle l'épiblaste, qui va se transformer en système nerveux. Donc ici, dans le sauvage, donc j'ai OTX2 qui est exprimé dans les régions antérieures de l'antérieur viscéral endoderme, donc là, et qui est aussi exprimé dans l'épiblaste. Et ça, ça va donner, à 8 jours après la fécondation, une partie antérieure de mon embryon qui exprime OTX2 en bleu. Et puis, à 10,5 jours après la fécondation, vous avez déjà l'isthme, le mésencéphale, le télencéphale, et vous voyez que vous avez votre expression de OTX2. Ça, c'est un animal normal, donc ça, c'est OTX2. Maintenant, si je prends un mutant, je retire OTX2, ben voilà, quoi, j'ai pas de tête, j'ai pas d'induction, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas d'induction de la tête. Mais si je mets OTX1 humain, en l'occurrence ici, dans le locus OTX2, c'est ça que ça veut dire, OTX1 dans 2, qu'est-ce qui se passe? Je démarre la tête, c'est-à-dire que ça démarre bien, et puis je la perds. C'est-à-dire que je ne conserve pas la tête, c'est-à-dire que je perds la capacité de faire une tête. Et ça, c'est lié à un processus qui est très intéressant, c'est que les signaux de régulation de la traduction d'OTX1 et d'OTX2 ne sont pas les mêmes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est dans un sauvage, vous avez à la fois la protéine en rose dans l'antérieur viscéral endoderme, et vous avez aussi la protéine en rose dans l'épiblaste, et vous avez aussi le messager en vert dans l'épiblaste et l'AVE. Donc en fait, vous avez le messager et la protéine dans les deux tissus qui l'exprime normalement. Dans le mutant, bien entendu, vous n'avez rien du tout, hein, puisqu'il n'y a pas de gène. Mais quand vous mettez OTX1 dans le locus OTX2, dans le viscéral endoderme antérieur, vous avez à la fois le messager et la protéine, c'est-à-dire que vous avez une régulation normale de la traduction de votre messager, mais dans l'épiblaste, vous avez le messager, mais vous n'avez pas la protéine. Et ça, ça vous indique une autre chose sur laquelle j'insiste très régulièrement dans ce cours, c'est que la régulation de la traduction, pas uniquement de la transcription, mais aussi de la traduction, sont des choses extraordinairement importantes pour ce qui est de la physiologie des gènes. C'est pour ça que quand vous lisez des articles, pour ceux d'entre vous qui lisent des articles, et quand vous sortez des grandes théories sur les patrons, à partir des patrons d'expression des gènes, par ce qu'on appelle des hybridations in situ, ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut montrer que la protéine est là, non seulement il faut montrer que la protéine est là, il faut montrer qu'elle est là au bon endroit. D'accord? Donc, ce n'est pas tout de voir le messager, parce que si vous aviez juste regardé par in situ le messager, vous vous dites, oh, bah, tout va bien, le messager est exprimé, mon gène est exprimé, tout va bien. Non, tout ne va pas bien, parce que le gène est exprimé, mais la protéine ne l'est pas. Et ça prouve que la régulation même de la traduction est quelque chose qui peut être tissu ou position dépendant. Donc, c'est une chose que je crois qu'il faut, il faut retenir. Alors, la question que je voudrais maintenant poser, c'est celle de l'induction neurale et de le développement de l'axe dorso-ventral du système nerveux. Donc, mais avant de faire ça, ça va m'obliger à parler d'une autre question qui est très très liée à cette question-là, qui est la question de la centralisation du système nerveux. Parce qu'il n'est pas évident que tout le monde a un système nerveux central. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système nerveux qui n'est pas central du tout. On peut avoir des éléments dispers de nerfs dans le tissu, avec pas de centralisation au niveau d'un tube nerveux ou d'un cortex. Et à quoi sert un système nerveux? Je l'ai souvent dit, un système nerveux, c'est quelque chose qui est susceptible d'intégrer les informations sensorielles, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur, de l'intérieur aussi, parce qu'on a aussi des informations sensorielles qui viennent de l'intérieur, bien entendu, et puis qui initie, en fonction de ces informations sensorielles, internes ou externes, des réponses qui sont des réponses de type motrice, pour l'essentiel, attraper la nourriture, fuir un prédateur, fuir un partenaire sexuel éventuel, l'attraper le cas échéant, mais aussi sécrétrice, c'est-à-dire sécréter des hormones, des neuromédiateurs, qui sont peut-être des réponses de type humoral, qu'on oublie toujours, souvent. Donc ça, c'est la fonction première d'un système nerveux. Et ces fonctions, même chez nous, évidemment, chez nous, chez Sapiens, d'autres fonctions sont apparues qui consacrent une part très importante à ce qu'on appelle les systèmes cognitifs, les tâches cognitives. Et c'est une des choses que j'essaierai de développer vers la fin. D'où viennent nos fonctions cognitives? Comment ont-elles pu apparaître? Donc un système sensorimoteur, chez les invertébrés et chez les vertébrés, peuvent être centralisés dans un système de ganglions. Vous avez vu, proto, deuto, tritocérébrum chez la mouche, le cerveau chez Sapiens, et puis de fibres qui arrivent et qui quittent ces embryons, des fibres sensorielles afférentes et des fibres motrices efférentes, par exemple. Mais dans les systèmes diffus, vous pouvez très bien avoir une action sensorimotrice locale, sans éléments de centralisation. Et ça, c'est ce qui se passe chez les hydres. Par exemple, chez les cnidaires, vous avez un tissu nerveux qui n'est pas centralisé, qui est présent de façon diffuse dans l'organisme et qui fait bien son boulot, pour les hydres, en tout cas. Et cette dichotomie, pour claire qu'elle soit, n'est pas si évidente qu'il y paraît. Alors, je vais vous rappeler quand même que chez les bilatérés,
Il y a différents types de membres. Vous avez les bilatérés qui vont donner les protostomes et les deutérostomes. Maintenant, vous êtes quasiment bon avec ça. Vous avez les protostomes qui sont des ecdysoanes, qui sont des protostomes capables de faire de la métamorphose, comme les nématodes, les arthropodes. Celui-là, je ne le connaissais pas, donc je vais vous le chercher. Il est très, très laid, mais enfin, bon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez des protostomes qui ne sont pas métamorphiques, comme les annélides, les flatworms, certains mollusques, les mollusques, et puis les deutérostomes, c'est-à-dire en fait nous, en gros. Et puis ici, vous avez les acélomates. Donc la question, c'est de savoir à quel moment est apparu les systèmes diffus. Et l'idée spontanée qui pourrait être la vôtre, bien entendu, c'est que le système diffus est plus ancien que le système central, puisque c'est nous le système central, donc c'est meilleur, donc c'est plus récent. Donc on a toujours tendance à penser des choses comme ça. Comme j'ai l'intention de vous humilier totalement et de m'humilier moi-même en tant que sapiens, je vais montrer qu'il n'en est pas du tout ainsi, en fait. Donc Peter Holland avait démontré qu'il y avait un système diffus chez les hémichordés, et cela avait amené à poser l'hypothèse d'une origine différente, parce que déjà notre système nerveux est assez différent de celui des mouches, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je reviendrai là-dessus. Et du fait qu'il y ait un système diffus chez les hémichordés, Peter Holland avait pensé qu'il y avait une origine différente du système nerveux central entre les arthropodes et les vertébrés. Ce n'était pas la même origine. Donc, quid de Urbilateria? Est-ce que Urbilateria, l'ancêtre de tous les organismes bilatéraux, est-ce que Urbilateria avait un système diffus ou un système centré? Et si le diffus est plus ancien, il faut penser que Urbilateria avait un système diffus. Et vous allez voir qu'il n'est probablement pas le cas. Donc, cette hypothèse de la diversité des origines est aujourd'hui, je pense, terminée. Je pense qu'elle a été réfutée, hein, on peut le dire. Elle a été réfutée par l'analyse des annélides. Hein. Alors, les annélides, vous les voyez quelque part ici, où est-ce que j'ai mis les annélides? Voilà, les annélides. Hein. Donc, en analysant les annélides, on s'est rendu compte que les annélides avaient un système qui n'était pas du tout un système diffus. Et même que les annélides avaient un système central qui ressemblait beaucoup plus au système central des mammifères que le système central des mouches. Hein, et c'est ça que je vais vous montrer. Donc, si les annélides, ceux-là, et nous, hein, nous avons un système centralisé, ça veut dire que le ultrabilateria Urbilateria avait un système lui-même centralisé, et que si on a maintenant des hémichordés qui ont des systèmes diffus, eh bien, c'est que le système diffus est postérieur à l'invention du système central centralisé, un système centralisé. Donc, en fait, que l'ancêtre de tous les organismes à symétrie bilatérale avait un système central, nerveux central. Hein. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu. Bon, voilà, ici, j'ai dessiné, comme j'ai pu, un système centralisé. Vous voyez, vous avez un ganglion à l'avant, un cerveau, quoi. Vous avez un tube neural ou une chaîne de ganglions. Et puis, vous avez des fibres sensorielles et motrices qui arrivent vers les systèmes centraux. Et dans un système diffus, vous avez un espèce de truc comme ça. Ça ressemble un peu à un Pollock, mais bon, avec moins de couleurs et moins de talent, bien entendu. Donc, mais c'est à ça que ça ressemble. Hein. Donc, si maintenant vous allez prendre Platineris, qui est un annélide, la souris à droite, et puis vous avez aussi la mouche à gauche, grâce à l'existence de tous ces orthologues, ces gènes de développement de type qui ont des homologies à travers l'évolution, vous pouvez aller regarder où sont exprimés ces gènes dans votre organisme au cours de développement. Alors là, c'est une représentation de ces organismes dans ce qu'on appelle la représentation de livre ouvert. C'est-à-dire que si vous avez un tube, hein, et que vous ouvrez le tube par le centre, ça je le montre tout de suite parce que c'est une représentation à laquelle je vais avoir à faire pendant plusieurs cours, vous ouvrez le centre et que vous rabattez par la pensée à droite et à gauche, vous avez une position, une représentation qu'on appelle en livre ouvert. Hein. On a ouvert le tube nerveux. N'oubliez pas que chez nous, contrairement à ce qui se passe chez les mouches, et j'y reviendrai, notre système nerveux est un plan avant d'être une boule. En fait, il n'est pas une boule, notre système nerveux est un plan. Votre cerveau, votre cortex, fait le mien aussi, font 2 mètres carrés. Donc, c'est des grands cortex hein, de 2 mètres carrés, dont l'épaisseur, c'est 3 mm. Hein, c'est très, très fin. Mais c'est quand même relativement grand, on peut quasiment se coucher dans son cortex. Oui, 2 mètres sur 1 mètre, oui, on peut, oui. Donc si vous représentez en livre ouvert comme ça, et que vous faites l'expression, le pattern d'expression de gènes de développement qui tracent des bords hein, dans le système nerveux, et qui marque, vous pouvez voir tout de suite, ce qui est devant et ce qui est derrière, ce qui est dessus et ce qui est dessous, parce que maintenant ce qui va être sur les bords ici, c'est ce qui est dorsal, hein. Vous voyez en rouge. Tout ce qui est rouge ici va aller sur le bord. Donc ce qui est en haut va être sur les côtés. Ce qui est au centre, ici, c'est ce qui est ventral. Donc déjà, quand je vois des gènes qui sont exprimés près du centre, je sais que ce sont des gènes ventraux. Et quand j'ai des gènes qui sont exprimés sur le bord, je sais que ce sont des gènes dorsaux. De même, j'ai mes gènes qui sont antérieurs ou postérieurs. Et donc, je peux déjà dessiner le dessus, dessous, le devant, derrière de l'expression des gènes de développement. Donc vous allez voir que la combinatoire est très importante. Et si maintenant je compare Platineris, qui est donc un annélide, une souris et une drosophile, vous voyez que à vue de nez, comme ça, à vue de nez, ça se ressemble beaucoup. Hein, les couleurs sont à peu près au même endroit. Il y a PAX6, qui est un gène de l'avant, clairement. Vous avez NK2, c'est-à-dire NKX 2.1, 2.2, la famille NKX, qui est des gènes ventraux. NK6 qui est aussi un gène ventral. Par contre, vous avez les gènes PAX3, 7 ou Gooseberry qui sont des gènes plutôt dorsaux. Et puis, vous avez un autre gène de la famille assez dorsaux qui sont les gènes de type MSH ou MSX qui sont des gènes. Et tout ça d'ailleurs sont des gènes à homéoboîte.
hein, des facteurs de transcription qui encodent des facteurs de transcription de la famille des homoprotéines. Et vous voyez que si vous comparez Platineris à la souris, c'est-à-dire à nous, hein, quand je dis la souris, c'est nous à ce stade-là, vous n'avez pas une très grosse différence entre l'anélide et Sapiens. Hein. Curieusement, vous avez une plus grande différence avec la mouche, puisque, comme vous pouvez voir, la famille des gènes Gooseberry et Pax est exprimée de façon segmentée chez la drosophile, alors qu'elle n'est pas exprimée de façon segmentée chez la souris. Elle est exprimée de façon non segmentée et segmentée, d'ailleurs, les deux chez Platineris. Mais ça, ça vous dit une chose, ça vous dit que au fond, à la fois Platineris, c'est-à-dire les annélides, ici, les arthropodes et les chordés ont un système nerveux centralisé. Hein. Et ça, ça veut dire, sans aucun doute, qu'Urbilateria avait un système nerveux centralisé. Et que si chez un hémichordé, que j'ai trouvé ici, je trouve un système nerveux qui n'est pas centralisé, ça veut dire que c'est quelque chose de secondaire à la centralisation. C'est-à-dire que nous sommes moins évolués de ce point de vue, entre guillemets, s'il y avait un plus et un moins que les hémichordés qui n'ont pas un système nerveux centralisé. Donc nous sommes plus conservateurs hein, sur le plan de la construction du système nerveux. Je n'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est toujours un tout petit peu intéressant parce qu'il faut comprendre que l'évolution ne fonctionne pas par complexification. Pas toujours. Hein. On a toujours tendance à penser que l'évolution, ça fonctionne en rajoutant des trucs, en rajoutant des couches. Des fois, l'évolution, c'est un truc qui simplifie. Et je vous donnerai plusieurs exemples de simplification liée à l'évolution. Donc, Urbilateria devait certainement avoir un système nerveux condensé avec au moins trois sous-divisions primaires dans le sens dorso-ventral. Hein. Et quand je dis trois sous-divisions primaires dans le sens dorso-ventral, c'est que vous voyez tout de suite hein, que cette conservation entre ces trois couleurs, hein, le bleu, le mauve et le jaune, plus ou moins jaune, qui est conservée, montre que cette division dorso-ventrale, ces bords entre le dorso-ventral, étaient déjà présents chez notre ancêtre Urbilateria. C'est-à-dire que cette première segmentation dorso-ventrale était présente. Et vous verrez aussi que les segmentations antéro-postérieures étaient elles aussi déjà présentes. Donc, je reviens à cet problème du dessus-dessous. Et cette question de la centralisation. Donc, cette question de la centralisation du système nerveux est une question qui, au fond, peut se rapporter à la question, je dirais, de la ségrégation entre l'ectoderme neural et un ectoderme non neural hein, au cours du développement précoce. Hein. Donc, vous voyez ici qu'au départ, vous avez votre ectoderme qui est non neural, que j'ai marqué en bleu, hein, dans votre organisme, voilà, un organisme. Ensuite, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une partie qui devient neurale, que j'ai marqué en rouge, hein, et puis cette partie neurale se divise en domaines, hein, et puis au sein de chaque domaine, je vais avoir des sous-types neuronaux. Donc en fond, c'est ça le développement du système nerveux, hein, pour un système nerveux centralisé en l'occurrence, qui est le nôtre. Donc cette centralisation du système nerveux, comment nous oblige à nous interroger d'abord sur la façon dont on peut neuraliser une partie de l'épiderme non neural, de l'ectoderme non neural. Et ça s'appelle tout simplement l'induction neurale, hein, pour ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs de leur bac. Encore que moi, quand j'ai passé le bac, je ne suis pas sûr qu'on nous enseignait des choses de ce genre. Enfin, je ne sais pas pour vous, vous non plus. Pourtant, vous êtes à peine plus jeune que nous, mais un tout petit peu apparemment. Donc ça me rassure, ça prouve qu'il y a quelque chose quand même de solide dans l'enseignement, c'est-à-dire que ça n'évolue pas trop vite. Parce que ça rend quand même utile les cours qu'on fait au Collège de France, du coup, ça justifie un petit peu mon salaire. Donc, je suis content que l'enseignement secondaire reste stable. Donc, qu'est-ce que l'induction neurale ? Donc, l'induction neurale, c'est quelque chose qui a été découvert au XIXe siècle, pas l'induction neurale, mais l'induction, au départ. Hein. La personne qui a découvert le phénomène d'induction, ben, je vous en ai déjà parlé, c'est à propos de la rétine que je vous ai parlé de ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, la partie du tube neural qui s'appelle le diencéphale, hein, quand elle s'évagine pour faire une rétine et qu'elle va entrer en contact
avec l'ectoderme de mon... Ici, c'est un crapaud, hein, de mon xénope. Qu'est-ce qui se passe? J'induis une lentille, il va exprimer PAC6, je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça, j'appelais ça l'induction de l'œil. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Hans Spemann hein, qui a appelé ça comme ça. Et donc ça, c'est, en fait, c'est un système d'induction dans lequel on a un tissu inducteur, on a un tissu induit, et puis on a quelque chose qui vient du tissu inducteur et qui induit dans le système qui est induit. Donc on a en fait ce qu'on appelle un système d'induction. Et Hilde Mangold est morte en faisant une tarte aux pommes. Sa cuisinière a explosé et donc elle n'a pas eu le prix Nobel. Mais Hans Spemann, qui ne faisait pas la cuisine, lui a vécu suffisamment longtemps pour développer ce travail sur l'induction neurale. Et qu'est-ce que ça voulait dire de faire l'induction neurale? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, à l'époque, la question, c'était... D'ailleurs, c'est toujours une question qui est une question importante aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une blastula, j'ai un embryon, cette blastula, j'ai un œuf. Hein. L'œuf, il est là, il prolifère. Bon, dans le cas d'un xénope, ça ne prolifère pas, ça segmente. C'est-à-dire que c'est des cellules qui se coupent en petits morceaux pour faire plusieurs cellules, mais le principe est le même. Au bout du compte, j'ai beaucoup de cellules qui s'appellent la morula, une petite mûre. Et puis, ensuite, j'ai la blastula, qui est un autre stade. Et dans cette blastula, je peux faire des cartes du destin. C'est-à-dire que j'ai des régions de la blastula qui vont donner tel tissu, celles-là vont donner tel tissu, celle-là, tel autre. Et la question qui était posée par Spemann, c'est est-ce que c'est déterminé dès ce stade-là? Donc, il avait un triton albinos, il avait un triton coloré, enfin pigmenté. Il prenait un petit peu du triton pigmenté, un petit morceau de la blastula, puis il le greffait dans le triton blanc. Donc on voyait le petit tissu marron dans le tissu blanc. Et puis on laissait se développer l'animal et on regardait si le tissu gardait dans son développement le souvenir de son origine ou s'il adoptait le sort de l'endroit où il était greffé. C'est-à-dire ce qui pouvait être reprogrammé en fonction de la position dans lequel on le greffait dans la blastula acceptrice. Et en général, le tissu s'adaptait à sa nouvelle position. Mais un jour, ils ont greffé une petite région ici qu'on appelle la lèvre dorsale du blastopore. Ils l'ont greffé dans la région ventrale. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ça ne marchait pas du tout quand ils ont fait ça. Vous voyez, ils ont mis ce morceau-là, là. Et ils ont obtenu un animal à deux dos. Hein. À deux dos, c'est-à-dire en fait à deux systèmes nerveux. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire que cette petite région qu'on appelle la lèvre dorsale du blastopore, que c'est l'endroit par où les tissus vont rentrer dans la blastula au moment de la gastrulation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le mésoderme et l'endoderme qui rentrent à l'intérieur de l'embryon. À l'extérieur, vous n'aurez plus que de l'ectoderme. Et à l'intérieur, vous aurez l'endoderme qui va vous donner le tube digestif et les glandes annexes, pancréas, foie, etc. Et puis vous aurez le mésoderme qui va vous donner l'os, le muscle, essentiellement. Et donc, c'est ce petit trou par lequel les cellules peuvent rentrer, les cellules qui vont donner de l'endoderme et du mésoderme peuvent entrer. Ce petit trou, c'est une forme une lèvre, et la lèvre dorsale ici. Mais cette lèvre dorsale, si je la greffe de l'autre côté, je fais un animal à deux dos, c'est-à-dire que j'induis un deuxième système nerveux. Et donc, j'ai un système d'induction qui veut dire qu'en fait, il y a quelque chose ici qui va induire la formation de mon système nerveux. Donc c'est la grande manip de Mangold et Spemann qui démontre l'existence de l'induction neurale. Alors c'est une observation qui a été catastrophique, pour rien vous cacher, parce que c'est une observation qui a conduit des générations de chercheurs à faire des manips sans fin et sans résultat. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une obsession. C'est-à-dire comme le tissu nerveux, c'est tellement mieux que le reste... il fallait forcément plus de choses pour faire du tissu nerveux. Donc, ce qu'on a cherché, c'est une molécule en plus qui permettait de faire du tissu nerveux. Et cette course à l'inducteur, en fait, a duré très très longtemps, plus de 50 ans, pour rien vous cacher, avec beaucoup d'avatars, parce qu'il y a un résultat qui n'était jamais pris en compte dans toutes ces manips. C'est qu'il suffit de perturber le système pour faire du tissu nerveux. C'était très simple. En fait, vous prenez un petit peu de poudre de kaolin là-dessus, vous le bougiez un petit peu, vous dissociez les cellules, et hop, je faisais du neurone. C'était ce que disaient les embryons. Mais personne ne voulait voir ça, bien entendu, parce que c'était trop simple. Que, en fait, l'ectoderme a une tendance spontanée, ce sont ce qu'on appelle le default pathway, à faire du tissu nerveux. Et c'est dans les années 1980, c'est-à-dire bien longtemps après, une centaine d'années après, en fait, que des manips faites par le groupe de Richard Melton ont montré qu'en en fait, il fallait des choses en moins pour faire du tissu nerveux. En fait, ce qui se passe, c'est que toute la région dorsale est empêchée de faire du tissu nerveux, hein, et que c'est si on bloque cet empêchement qu'à ce moment-là, on peut faire du tissu nerveux. Donc, voici la manip du groupe de Melton. Voilà, ça se fait... C'est les BMP, vous vous rappelez, les BMP, DPP, on en a parlé plusieurs fois. Ce sont donc des morphogènes qui se fixent à des récepteurs et qui envoient un signal. Hein. Et quand j'ai ce signal, eh bien, ça veut dire qu'on est d'endermes ne donnera pas de tissu nerveux. Alors, ce qu'a fait Dick Melton, c'était de faire exprimer très fortement dans l'œuf un récepteur tronqué. C'est-à-dire que je peux fixer le morphogène, mais je ne transduis plus le signal. Donc le peu de molécules, truc normal, qui peuvent se transduire, ne voient plus le signal, parce que le signal est entièrement bloqué par ce leurre, d'une certaine façon, qui est un leurre moléculaire, qui va aller trapper tout le morphogène. Eh bien, quand je fais ça, eh bien, tout d'un coup, je bloque le signal et je commence à avoir de l'ectoderme neural, c'est-à-dire que j'induis du tissu nerveux. Voilà. Et c'est ainsi que ce qui a été démontré ensuite par la suite, avec Melton, de Robertis, toute une série de chercheurs, c'est que ce que sécrète la lèvre dorsale du blastopore, ce sont des molécules qui bloquent le morphogène. Et si je bloque le morphogène, à ce moment-là, je peux induire la formation de mon système nerveux. Alors, on a une tendance normale, c'est-à-dire c'est le default pathway. Et il faut rajouter évidemment un truc, c'est un truc qui bloque quelque chose qui existait déjà pour faire du tissu nerveux. Alors ces inhibiteurs, comme la cordine, comme Noggin, il y a une série d'inhibiteurs des BMP, sont synthétisés par la lèvre dorsale du blastopore, et c'est cette activité anti-BMP qui permet l'action dorsalisante, la dorsalisation et donc la formation du tissu nerveux. Donc, le fait que DPP ou BMP, qui est le même nom, DPP c'est chez la mouche, et BMP c'est chez nous, il y a plusieurs BMP, l'année dernière j'ai beaucoup discuté des DPP, je ne vais pas y revenir dessus, bloque l'action du système, la neuralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système nerveux va se développer du côté où il n'y a pas de BMP. Hein, et c'est là que vous allez voir que le dessus-dessous revient, parce que chez le xénope, hein, vous voyez ici ce qui se passe, c'est que chez le xénope, on a les BMP, DPP dans les régions ventrales et les cordines qui vont bloquer les BMP dans les régions dorsales, et c'est pour ça que le système nerveux se développe dans les régions dorsales chez les vertébrés. Quand je dis xénope, je veux dire vertébrés pour l'instant. Alors que chez la mouche, c'est le contraire, les BMP sont dorsales et les inhibiteurs de BMP sont ventrales, et c'est pour ça que chez la mouche, le système nerveux, il est ventral. Donc en fait, chez les arthropodes, chez les invertébrés, le système nerveux est ventral, et chez nous, il est dorsal, postérieur pour les bipèdes, si vous préférez. Donc, voilà ici ce qui se passe chez un vertébré. Vous avez donc l'ectoderme neural, qui est maintenant dorsal, en position dorsale, comme je vous l'ai montré. Vous avez le mésoderme, aussi la région ventrale. Vous avez ici la région non neurale. Ici, vous avez la région neurale qui synthétise du BMP. En bleu, ici, j'ai mis un endroit qui va donner les crêtes neurales, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, vous avez l'invagination, c'est-à-dire que vous avez la formation d'un... C'est un plan, le système nerveux. J'y suis venu plusieurs fois, mais plusieurs fois, je reviendrai sur cette question du plan. Le plan est internalisé sous la forme d'un tube, bien entendu, avec la crête neurale qui va aller donner les ganglions autonomes, va aussi donner une partie du, comme je l'ai dit, de muscles, de placodes, d'os, même pour ce qui est des régions les plus antérieures. Et chez les arthropodes, vous avez un système qui est différent, c'est-à-dire que vous avez donc l'épiderme qui est, lui, dorsal, au lieu d'être ventral. Vous avez une migration de la région neurale vers l'intérieur, vers la portion ventrale, une entrée du mésoderme, bien entendu, et au lieu d'avoir la formation d'un tube chez les arthropodes, vous avez l'entrée, une par une, de toute façon, une internalisation des cellules. C'est-à-dire que les cellules rentrent dans l'embryon. C'est pour ça que chez les arthropodes, vous n'avez pas un plan, hein, vous n'avez pas un tube, vous avez des ganglions. Et ça, c'est une grosse différence, hein, parce que le ganglion, c'est moins sympa que le plan. Hein. Parce que vous avez un plan, vous pouvez avoir un cerveau de 2 mètres carrés, d'accord, mais avoir un ganglion de 2 mètres cubes, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, il faut être très costaud, ensuite, il faut aller l'irriguer jusqu'au centre. Donc, en fait, je pense que l'invention du plan a été une chose très importante pour le développement du système nerveux chez les vertébrés. Hein. Et que le fait que ces malheureux arthropodes n'aient que des ganglions est probablement un blocage pour l'évolution. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas eux qui nous survivront, ça, c'est une autre affaire. Mais nous, on est peut-être trop intelligents, ça c'est un autre problème. Enfin bon, le système nerveux des arthropodes est ventral et non dorsal comme chez les vertébrés, en accord avec cette règle évidemment qu'il se développe du côté opposé au côté qui exprime DPP-BNP. Alors ça avait été vu en 1875 déjà. Anton Dorn avait proposé que les vertébrés ont hérité leur système nerveux central d'un annélide, hein, d'où le dessin du départ de Punch en 1882, qui était en fait une critique de Dorn, d'un ancêtre annélide, qui aurait inversé leur axe dorso-ventral au cours de l'évolution. C'est-à-dire que le dessus-dessous est devenu le dessous-dessus. Hein. C'est comme ça. Donc c'est une idée d'une inversion qui avait été déjà défendue, pour ceux qui ont bonne mémoire, par quelqu'un qui s'appelle Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire en 1822, en même temps que Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire avait proposé que la segmentation chez les arthropodes correspondait à la segmentation chez les vertébrés et qu'au fond, il n'y avait que, globalement qu'un seul plan de l'organisme pour tous les animaux, qu'ils soient invertébrés ou vertébrés. Ça n'a pas été entièrement apprécié, mais je reviendrai là-dessus. Donc, cette idée a été confirmée par les domaines d'expression des morphogènes, DPP et BNP, et des gènes de développement. Alors, voilà l'hypothèse. Hein. L'hypothèse, c'est qu'au début, c'était comme ça, hein, et puis, il s'est mis sur le dos, hein, donc on a inversé le tissu nerveux, et puis la bouche a migré vers les régions ventrales. Donc, en fait, voilà l'ancêtre, hein, et puis, en fait, ça correspond, notre dorsalisation correspondrait à une migration. En fait, on était sur le dos, et puis, bon, ça s'est renversé. Mais le système est devenu dorsal. Donc, il y a une autre hypothèse qui, au fond, qui aurait une rotation de l'axe de la tête par rapport à l'axe du corps. Alors, très peu de gens pensent que cette hypothèse est exacte, mais elle a un intérêt, cette hypothèse, je pense, et je pense qu'on ne peut pas entièrement l'éliminer. L'intérêt, c'est qu'elle expliquerait la décussation. Hein. Vous savez que chez les vertébrés, le cerveau droit innerve ce qui est à gauche innerve ce qui est à droite, donc il y a eu ce qu'on appelle une décussation, c'est-à-dire un croisement de l'axe au niveau des fibres. Et ce qui n'est pas vrai chez les invertébrés. Les invertébrés, le droit innerve le droit et le gauche innerve le gauche. Donc si on a une rotation, ça peut expliquer l'origine de la décussation. Hein, donc gardez ça en tête. Tout le monde préfère cette hypothèse-là, mais enfin celle-là n'est pas totalement idiote au vu de la décussation de l'innervation du système nerveux. Je perds du temps là. Alors l'autre chose, c'est que les BMP ne sont pas entièrement inhibitrices. Hein. Il existe des organismes, si vous voulez. Par exemple, il y a un agent neuronal qui s'appelle, qui marque tous les neurones, qui s'appelle ELAV, qui est une RNA binding protein qui est exprimée dans les neurones. Et chez des hémichordés, qui sont des entéropneustes, et chez les polyquets, chez les annélides, dont on a souvent parlé, ELAV n'est pas réprimé par BMP4. Ce qui serait suggéré que BMP ne réprime pas le système nerveux chez ces bestioles. Donc en fait, moi je ne pense pas que ce soit ça qui se passe. Je pense que ce qui se passe, c'est que BMP réprime les neurones moteurs et les interneurones, mais pas les neurones sensoriels. Hein. Et je crois qu'une des preuves de ça, c'est qu'au fond, ici, on a du BMP, hein, dans l'épiderme non neural. Ici, vous avez le tube neural qui est en train de s'internaliser. Ici, vous aurez les interneurones et les motoneurones. Mais ici, dans les régions dorsales, vous aurez les neurones sensoriels. Hein. Et puis, vous avez aussi ici les neurones de la crête neurale, quand même, qui sont tout au contact de BMP. Et en fait, BMP entraîne l'expression d'un gène qui est un gène très fortement exprimé dans les neurones sensoriels, qui s'appelle atonal. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que, fondamentalement, BMP réprime ce qui est interneurone et motoneurone, mais ne réprime pas ce qui serait sensoriel, et que c'est ça qu'on verrait chez les entéropneustes. Donc ça, je vous laisse ça à votre réflexion pour ceux que ça peut intéresser. Oh, ça va être compliqué. Donc, à la suite, on va y aller quand même, hein, à la suite de cette induction neurale, on a la séparation entre ectoderme neural et ectoderme non neural. Et l'ectoderme neural est, lui, divisé en trois régions essentiellement, en trois bandes dorso-ventrales, hein, que je vous ai exprimées ici avec des couleurs, donc MSH, IND et VND. En fait, ça veut dire déficient, neural déficient, intermédiaire neural déficient, ventral neural déficient, mais en fait, ça correspond à des gènes de développement sur lesquels je vais venir dans un instant. Et donc, ce sont trois premières rangées dorso-ventrales de neuroblastes, dont l'expression résulte d'interactions génétiques de ce type. Donc, vous avez évidemment DPP qui inhibe la formation des neurones et qui entraîne la formation de la peau, hein, bien entendu. Vous avez ici SOG, c'est-à-dire en fait l'équivalent de la cordine, c'est-à-dire les inhibiteurs des BMP. Et ça, c'est un facteur de transcription qui inhibe la transcription de BMP, qui inhibe l'activité de DPP, donc permet la formation des neurones dans ce domaine. Et puis ici, vous avez trois zones, MSH, IND et VND, qui sont liées, elles, à des interactions en fait inhibitrices entre des facteurs de transcription qui sont à l'œuvre dans ces différentes régions, et dont j'ai marqué ici les actions inhibitrices. Mais le résultat, c'est que vous avez la formation de trois domaines, et si vous êtes intéressé, vous avez la référence. Ici, c'est un article de revue assez récent de Mizutani et Bia. Donc, voilà pour cette affaire-là. Donc, dans ce schéma, je n'ai pas marqué tous les éléments régulateurs. En particulier, je n'ai pas marqué un protéine qui s'appelle toloïde et qui clive la cordine ou SOG. Et comme j'ai dit, BRK est un inhibiteur transcriptionnel de DPP. Donc, toujours est-il que vous avez comme ça trois groupes de neurones, MSH, IND et VND, qu'ils ont des correspondants chez les vertébrés. Ces correspondants s'appellent MSX, GSH, PAX6 et NKX. Hein. Donc, et là, de nouveau, ces systèmes d'inhibition, notez-les bien, enfin, du moins, je vous les signale, car j'y reviendrai plus tard quand je parlerai des modèles de fabrication des bords dans le système nerveux central. Donc, MSH, ça veut dire Muscle Segment Homeobox. VND, ça veut dire Ventral Nervous System Defective. Et IND, ça veut dire intermédiaire neuroblast défective. Donc, la suite du processus est la même chez les vertébrés et les invertébrés. Ça correspond évidemment à l'internalisation du système nerveux. Vous ne pouvez pas laisser votre système nerveux à l'extérieur. Hein. La gastrulation, de toute façon, et l'induction neurale, c'est un moment où je rentre tout à l'intérieur. Hein. Tout ce qui était à l'extérieur, ectoderme, mésoderme, endoderme, va rentrer dans l'embryon. Et l'ectoderme va venir couvrir tout ça. Ce n'est pas bon de laisser son système digestif dehors, c'est pas bon de laisser... Encore que chez Urbilateria, il est possible que le système digestif ait été à l'extérieur, que ce soit une fente externe. Hein. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Maintenant, on rentre tout à l'intérieur. On a le tube nerveux, on a le tube digestif et on a le mésoderme qui est interne à tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire au fond, la peau, hein. Avec des trous pour laisser passer, évidemment, la lumière, par exemple. Ou les sons, ou les odeurs. On a du système nerveux qui est quand même assez exposé. Par exemple, dans la muqueuse olfactive, vous avez directement les récepteurs qui sont à l'air. Chaque fois que vous vous mouchez, vous perdez un nombre incroyable de récepteurs. C'est pour ça que ça se reproduit dans la muqueuse olfactive. Vous les reproduisez aussi. Donc, c'est un des rares endroits où il y a de la production de neurones chez l'adulte, parce qu'on les perd. Donc, la formation du... J'ai pu vous donner l'idée là que la formation de l'axe antéro-dorso-ventral était liée entièrement au BMP. Or, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cours l'année dernière, ils savent que ce n'est pas vrai, hein, qu'il y a du sonic hedgehog aussi, qui est important. Mais en fait, il existe un certain nombre d'expériences qui montrent qu'on peut faire du patterning dorso-ventral complet en l'absence de sonic hedgehog. Hein. Alors, sonic hedgehog, lui, agit à travers des facteurs de transcription GLI, en l'occurrence. Mais il existe des expériences qui suggèrent que chez les vertébrés, même en l'absence de sonic hedgehog, les BMP peuvent induire un patron correct d'expression dorsoventrale des gènes de développement. Alors, chez les polychètes, c'est classique. Chez les polychètes, vous avez un patron dorsoventral en l'absence de sonic hedgehog. Donc, on suppose que chez Urbilateria, il n'y avait pas de sonic hedgehog, mais qu'on pouvait quand même avoir un patron dorso-ventral entièrement lié au système BMP. Donc l'idée qui est amenée aujourd'hui, c'est que c'est quand les organismes se sont augmentés en taille, hein, que vous avez un truc plus grand, que BMP était trop court, si j'ose dire, pour aller paterner les régions ventrales. Donc il a fallu inventer des systèmes ventraux de morphogènes. Parce que les morphogènes, c'est une chose sur laquelle je reviens très souvent, les morphogènes ne peuvent pas diffuser à très longue distance. Hein. Donc l'idée là, c'est que dès que le type nerveux est devenu trop important, il a fallu inventer des morphogènes ventraux pour compléter l'incapacité de BMP à induire un pattern normal sur un axe trop long. Donc que l'invention des morphogènes ventraux serait une invention secondaire au cours de l'évolution. Alors, ça veut dire que BMP et SOG, Cordine, si vous voulez, sont des systèmes extrêmement anciens, et je crois que la démonstration, la preuve que sont des systèmes vraiment anciens, c'est que on les retrouve chez les diploblastes, c'est-à-dire les organismes à deux tissus seulement, sans mésoderme, juste endoderme et ectoderme. On les retrouve chez les coraux, on les retrouve chez les méduses, on les retrouve chez l'anémone de mer, le long d'un axe qui est perpendiculaire à l'axe des ox, c'est-à-dire l'axe antéro-postérieur. Donc l'axe des BMP est vraiment un axe dorso-ventral, et l'axe antéro-postérieur est l'axe des gènes qu'on appelle les gènes ox, qui, comme vous le savez, mais j'y reviendrai certainement au cours du cours, détermine l'axe antéro-postérieur. Ces patrons dorso-ventraux d'expression sont conservés partiellement entre la drosophile et les vertébrés, mais comme je vous l'ai dit, les annélides sont encore bien plus proches de ce point de vue des vertébrés. Voilà. Donc l'autre chose, c'est que vous pouvez voir ici, donc voilà l'axe dorso-ventral. Voici ici une mouche, hein, avec les trois domaines et avec des neurones que je marque ici, sensoriels, moteurs, neurones à sérotonine, aussi les neurones de la midline. Et vous voyez qu'entre la mouche, les vertébrés et les annélides, il y a une très très grande correspondance. Et vous voyez aussi que de ce fait, ici, les vertébrés et les annélides sont plus proches, enfin, les vertébrés sont plus proches des annélides pour ce qui est de la construction du système nerveux qu'ils ne sont proches des mouches. Hein. Vous voyez qu'en fait, il y a une incroyable conservation de la compartimentation dorso-ventrale et de la position des différents types neuronaux le long de l'axe dorso-ventral entre les annélides et nous. Donc, finalement, Dorn n'avait pas tellement tort de dire que nous descendons des annélides, même si ça ne pesait pas aux caricaturistes de Punch. Donc, je vais maintenant en venir à une division un tout petit peu plus fine du système nerveux, donc plus fine des territoires du neuroépithélium. Donc là, je vais me concentrer maintenant sur le cas des vertébrés. Parce que du fait que le vertébré a un système nerveux plan, hein, et pas des ganglions, c'est beaucoup plus simple de le présenter sous une forme de coordonnées cartésiennes. Voici ici ces diapositives qui vous montrent ici votre système sensoriel que je mets dans une grille cartésienne, enfin de coordonnées cartésiennes, qui monte vers le cortex par un intermédiaire qui est le thalamus. Et ce que j'ai montré ici, c'est une image, hein, c'est un réseau de neurones. Donc ce réseau de neurones va être représenté au niveau thalamique, sensoriel, ensuite va monter au niveau du cortex. Il peut y avoir des interactions entre des régions du cortex, et puis évidemment ça va redescendre par le thalamus, et puis ça va aller vers le système, que je dis, de moteur, ou le système de sécrétion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, les trajets neuronaux que j'ai dessinés ici, c'est-à-dire que ce qu'appelle l'homonculus du miroir, c'est-à-dire si on s'engraisse juste au plan sensoriel, la personne que vous regardez dans la glace le matin quand vous prenez votre douche, que vous vous rasez pour ceux qui se rasent, vous maquillez pour ceux qui se maquillent, est lui-même déterminé par des gènes de morphogénèse qui sont le long de ces quatre complexes, qui sont les complexes ox, hein, antéro-postérieurs. Il y a aussi du dorso-ventral, mais on va regarder en antéro-postérieur. Donc vous avez la formation de votre homonculus de miroir, mais qu'avec le système sensoriel, vous montez cette représentation vers le système nerveux central, donc vers le thalamus. Alors, elle est déformée. Ça, ce sont des réseaux de neurones, vous voyez là. C'est déformé parce que, évidemment, la taille de l'organe, maintenant, n'est pas la taille normale, celle que vous voyez, mais elle est la taille qui est corrigée par un coefficient d'activité. plus c'est actif et plus vous êtes grand dans le cerveau. D'accord ? Donc la taille des organes à la périphérie ne correspond pas à la taille des organes dans le cerveau. La taille des organes dans le cerveau, elle correspond à l'utilisation que vous avez faite de vos organes à la périphérie. Donc vous avez une déformation au niveau du thalamus. Il y a plusieurs homonculies au niveau du thalamus. Et puis vous montez également vers le cortex. Et en particulier, les systèmes sensoriels et moteurs sont très très riches au niveau des mains, comme vous pouvez voir ici, au niveau des lèvres. Les pieds sont un peu désavantagés, sauf chez les danseurs. Je n'ai pas été regardé chez les danseurs, mais pas les homonculies. Oui. Une image, oui. Mais ce sont des réseaux de neurones. Oui, je suis certain. Oui, je suis certain. Une image. C'est vous qui avez dit l'image. Moi, je n'ai pas parlé d'image. Hein. J'ai dit, non. J'ai dessiné. J'ai dessiné cette représentation. Mais si vous prenez un homme sur un champ de bataille, d'accord, et que vous allez aller avec votre électrode piquer point par point dans les aires sensorielles primaires, par exemple, ce que vous allez faire, vous allez voir, quand vous êtes dans les aires sensorielles qui représentent, vous allez voir des morceaux de la main qui vont faire comme ça. C'est une expérience qui a été faite sur les champs de bataille. Et on peut tracer, et ça a été fait par un nombre de physiologistes, pas uniquement chez Sapiens, hein, mais chez les gens, on peut retracer comme ça, au niveau du cortex, les réseaux de neurones qui correspondent à la représentation sensorielle. Et d'ailleurs, je vous montrerai des manips, si vous retirez les afférences sensorielles, vous allez voir que vous allez empêcher le développement au niveau sensoriel dans des périodes très précises, qui sont des périodes où cette innervation se fait, qu'on appelle les périodes critiques du développement. Donc, voilà la manip, d'ailleurs. Je vous la représente ici tout de suite. Voilà. Donc, ce que je voulais dire... non, ce n'est pas cette manip. Ce que je voulais dire, c'est que ça implique cette affaire, que ce qui arrive dans le cortex, via le thalamus, soit géométrisé. C'est-à-dire que ce qui est sensoriel doit être géométrisé pour monter dans le cortex. Et alors... Il y a des endroits où c'est très simple de géométriser. Par exemple, vous avez ici, c'est ce qu'on appelle les vibrisses chez la souris. Donc, chez la souris, vous avez ce que vous croyez être des poils ici, en fait, ce sont des terminaisons nerveuses. Et si vous voyez une souris essayer de traverser un pont, un bridge, un trou, vous voyez qu'elle va aller toucher l'autre côté du trou avec une vibrisse, de façon de mesurer la distance, et elle va pouvoir comme ça sauter de façon appropriée. Donc, c'est un système sensoriel. Et à la surface du museau, vous avez 5 rangées de vibrisses qui sont ici exprimées, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà les 5 rangées. Ça passe par le ganglion trigéminal, ça monte au niveau du tube nerveux, il y a un premier relais, il y a un deuxième relais au niveau du thalamus, et puis ensuite, il y a un relais dans les aires sensorielles primaires au niveau du cortex. Enfin, c'est un relais, là, c'est ce qu'on appelle les tunnels, c'est ce qui aboutit. Et c'est une relation point à point entre chaque vibrisse et chaque tunnel. D'accord ? D'ailleurs, si avant l'âge de 7 jours chez la souris, vous retirez tout un rang de vibrisses, ou une vibrisse, ces vibrisses ne seront plus représentées au niveau central. C'est-à-dire qu'il y aura un trou. Le trou sera occupé d'ailleurs par les vibrisses afférentes à côté, qui vont envahir l'espace, et qui vont être hyper innervées ou hyper représentées au niveau cortical. Et ça, c'est uniquement si on fait cette déférentation au cours de la période critique. Je n'aurai pas le temps de parler de la période critique cette année, j'en parlerai l'année prochaine dans un cours qui sera lié à l'évolution de la régénération. Mais moi, j'en venais à ma problème de présentation géométrique à laquelle vous faites allusion, d'ailleurs. Dans le nez, il n'y a pas de représentation géométrique. Dans le nez, par exemple, vous avez la muqueuse nasale, vous avez des récepteurs qui sont affectés à différentes molécules odorantes, qui vont reconnaître différentes molécules odorantes, et qui sont distribuées dans la muqueuse de façon totalement stochastique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le nez une région, pour faire bref, une région pour la moutarde et une autre pour le miel, d'accord ? Donc, mais chaque neurone qui encode un récepteur qui reconnaît une molécule odorante va aller projeter au niveau du bulbe sur le même glomérule. C'est-à-dire que vous n'avez pas de géométrisation au niveau de la muqueuse, maintenant vous avez une géométrisation au niveau du bulbe. C'est-à-dire que vous avez géométrisé le système quand vous arrivez dans le système nerveux central. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que ce qui doit être traité comme information au niveau central nécessite une géométrisation de ce qui arrive. D'ailleurs, ce n'est pas tellement étonnant parce que, d'une certaine façon, si on y pense de façon un petit peu finaliste, le système nerveux, ça sert à quoi ? Ça sert, comme je disais, à s'orienter dans l'espace en fonction des informations qui viennent de l'extérieur. Donc, cette géométrisation est vraiment importante pour comprendre où on est et où on va en fonction de là d'où viennent les informations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, qu'elles entraînent un réflexe de fuite ou un réflexe d'appétence, vinaigre ou sucre. Donc maintenant, avant de terminer cette première partie du cours, j'aimerais juste vous demander 2 ou 3 minutes, parce que j'ai un tout petit peu traîné, mais si vous avez 5 minutes à m'accorder, pour qu'on puisse gagner un petit peu du temps sur la semaine prochaine, parce que c'est un cours qui est un tout petit peu compliqué. Voilà, ici, je vais vous montrer un tout petit peu pourquoi c'est très important, cette expression de gène de développement et cette formation de bord dans le système nerveux, devant, derrière, dessus, dessous. Hein. Et là, c'est un exemple qui met en relation la formation des bords et la différenciation de sous-types neuronaux. Hein. Donc, ici, c'est une manip assez ancienne, 1998, où là, j'ai pris un système nerveux de souris que j'ai représenté en position open book. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui est ventral, c'est ce qui est près du centre, et ce qui est près de la périphérie, c'est ce qui est dorsal, vous vous rappelez. Donc, j'ai des domaines dorsaux et des domaines ventraux, D pour dorsal et V pour ventral. Maintenant, je peux les numéroter de l'avant à l'arrière, de 1 à 6. Donc, je vais avoir D1 à D6, V1 à V6. Et dans mon système nerveux, j'ai une région sur laquelle je reviendrai souvent, qui s'appelle l'isthme, qui est la frontière entre le mésencéphale et le métencéphale. Et l'isthme exprime une structure, un morphogène qui s'appelle le FGF8. Maintenant, le niveau ventral est toujours marqué dans le système nerveux, jusqu'en tout cas cette région V2, par l'expression du morphogène Sonic Hedgehog. Donc vous avez 2 morphogènes, Sonic Hedgehog et FGF8. D'accord ? Maintenant, si vous regardez juste cette région-là, vous verrez que dans le domaine V3, vous avez les neurones dopaminergiques, qui sont des neurones très importants sur le plan de la physiologie, sont des neurones qui sont les neurones qui dégénèrent, si vous voulez, dans la maladie de Parkinson. D'accord ? Et juste postérieur, en V4, c'est-à-dire en ventral 4, vous avez des neurones sérotoninergiques. D'accord ? Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en jouant sur l'information de position sur ce territoire, je peux modifier le nombre ou la position des neurones dopaminergiques. Je peux vous dire qu'on peut faire, par exemple, des dopaminergiques ici ou les bloquer ici. Et voilà. Ici, je prends du V3. Et en V3, je vous ai dit, j'ai des neurones dopaminergiques en rouge. En V4, de l'autre côté de l'isthme qui est là, j'ai des neurones sérotoninergiques. Maintenant, je mets un anticorps contre Sonic Hedgehog. Qu'est-ce que je fais quand je mets un anticorps contre Sonic Hedgehog? Je dorsalise cette région, parce que cette région-là ne voit plus Sonic Hedgehog, donc elle s'imagine qu'elle est ici. Donc V3 s'imagine qu'il est en D3. Si V3 s'imagine qu'il est en D3, V3 ne fait plus de dopamine. Si V4 s'imagine qu'il est en D4, il ne fait plus de sérotonine. D'accord? Donc j'ai changé l'information de ces compartiments, et ces compartiments ont fait des cellules différentes. Elles ne font plus des cellules dopaminergiques ou sérotoninergiques. Maintenant, je prends V2, d'accord, ou D2. Je prends V2 et je mets du FGF8. Qu'est-ce qui se passe si je mets du FGF8 dans V2? Voici ici V2, je lui mets du FGF8, V2 s'imagine qu'il est en V3. Si V2 s'imagine qu'il est en V3, V2 maintenant me fait de la dopamine, comme s'il était en V3. Maintenant, je prends D2, je mets du FGF8. Il ne se passe rien parce que D2 s'imagine qu'il est en D3. Puis en D3, il ne fait pas de dopamine, d'accord? Mais si maintenant je mets du FGF8, il est en D3, je rajoute du Sonic Hedgehog, il passe en V3, il fait de la dopamine. D'accord? Donc vous voyez que la localisation de l'expression de ces morphogènes, mais derrière ça, vous avez évidemment des gènes de développement, et c'est là-dessus que je viendrai la semaine prochaine, a un intérêt évidemment pour comment je fais des patrons dans mon système nerveux, mais aussi sur ce qu'on appelle les restrictions de lignage dans la formation des neurones du système nerveux. Et donc, je vais m'arrêter là, et je peux répondre aux questions, j'ai un petit peu de temps, et la semaine prochaine, je continuerai avec ces questions de dessus-dessous et devant-derrière.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.